Comprenez d'abord le livre de Dvarim dans la parasha de Vayetranan, qui commence au chapitre 3, verset 23 de Dvarim, et qui s'achève au verset 11 du chapitre 7. Bien, comme d'habitude, je vais vous demander si vous avez des questions particulières à étudier. Je vous signale. Je vous signale que, effectivement, c'est une parasha qui est emplie de textes importants, en particulier les 10 commandements, la répétition des 10 commandements. Vous pouvez fermer là, je vous dis. La répétition des 10 commandements dans la parasha de Vayetranan, et puis d'autre part, le texte de Kriyat Shema. Je suppose que vous avez évidemment des questions à ce sujet, on le verra tout à l'heure. Mais je voudrais commencer par le premier verset, comme d'habitude, qui donne le thème général de la paracha. Alors je vous écoute, si vous avez des sujets particuliers à me demander, je les noterai. Vous arrivez à m'entendre malgré l'enrôlement consécutif à deviner quoi. La somme du tome. Quelle? Parfois.
La première question, c'est dans la Seyat Amidor, la paracha.
Traduis, que tout le monde entende la question. Traduis à Seyat Amidor. Non, non, explique. Si je te demande de traduire, c'est pour les gens qui ne comprennent pas l'hébreu, tout simplement. Alors, traduis.
Les
10 commandements. Les 10
commandements.
Écoutez, quand vous posez une question et que vous employez une expression en hébreu, traduisez. Sinon, je vais être obligé de reprendre pour traduire. C'est clair? Et on n'y peut rien. On est dans un cours sur la Torah, mais en français. J'écoute, alors, traduis, j'écoute.
Il n'y a pas de relation avec la terre d'Israël, en particulier le commandement de la terre d'Israël, de conquérir le pays. Est-ce que c'est parce que les 10 commandements est-ce que c'est par le fait que c'est les commandements qui doivent pouvoir être respectés à qui même en...
Il faudrait dire devoir, pas pouvoir. Tu comprends la différence? Mais est-ce que quelqu'un voudrait répondre?
C'est-à-dire que je voudrais également
demander... Non, attendez, j'ai posé une question. J'ai demandé si quelqu'un voudrait répondre à la question. Sinon je répondrai moi-même. Mais si vous avez une autre question, vous la poserez aussi. Ken?
Non, c'est pas juste qu'on ne parle pas des registres dans les 10 commandements, puisque dans la mitzvah de Kibbutz Avraham, c'est marqué le man yirichun yamecha ala adama, asher Hashem Elokei
Sanotel Lecha. C'est une bonne réponse. Et ça va un peu dans le sens de l'enseignement du Rambam, de Maïmonide. En quelle langue? Traduisez.
Alors, le commandement d'honorer son père et sa mère, qui constitue le commandement charnière des Aseret HaDibrot, des 10 commandements, apparaît comme finalité, c'est qu'à travers cela, notre vie sera prolongée sur la terre d'Eretz Israël.
Il n'y a pas Eretz Israël. Ah, la dommage. Mais quand même, la réponse, c'est la réponse. Et ça va dans le sens. Vous avez entendu? Ah non? Ah non, c'est pas. Vous avez bien fait d'avoir eu tort, je ne sais pas comment on dit ça en français. Vous avez raison d'avoir tort, vous avez bien fait de dire ce que vous avez dit, ça me permet de mettre. C'est pas du tout sous-entendu. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous raisonnez, mais c'est pas du tout sous-entendu. Il n'y a pas une autre terre, regardez l'expression. Et la terre que je vous donne, il n'y a pas d'autre terre que Dieu donne à Israël que les restes d'Israël. Alors c'est pas sous-entendu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Vous savez, avec les sous-entendus, la dernière fois, il y avait un chassid là, mais il n'est pas venu. Sinon, je vous aurais cité autrement, mais ça fait rien, je cite l'essentiel. C'est la réponse que donne le Rav, c'est, ça va dans le sens d'enseignement de Maïmonide. Maïmonide ne stipule pas dans son code, le Sefer HaMitzvot, la récapitulation des 613 commandements de la Torah. J'explique rapidement en préface. Tous les décisionnaires sont d'accord qu'il y a 613 commandements dans la Torah. Mais il peut y avoir des controverses sur le fait de savoir si un verset est un commandement dans le sens strict ou si c'est une promesse. Mais d'autre part, on apprend de la Gemara que le code est formulé en 613 articles. Et Maïmonide ne cite pas du tout le commandement d'habiter en Eretz Israël. Par contre, il cite celui de conquérir Eretz Israël, ce qui fait que Narmanide a beau jeu dans son commentaire de mettre en évidence qu'on ne voit pas comment on pourrait habiter en Eretz Israël si on n'avait pas déjà conquise. Vous comprenez, c'est un problème contemporain, par conséquent c'est un problème important. Je ne sais pas si ta question va un peu dans ce sens-là. Et Maïmonide dit que la Torah n'a pas à indiquer cela. Parce que si elle avait indiqué cela à nous, Israël, elle n'aurait rien d'autre à nous dire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. S'il faut d'abord que dans la Torah concernant Israël, qu'on dise à Israël, tu sais, ta terre c'est Eretz Israël, c'est qu'on ne parle pas Israël. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que c'est beaucoup plus grave. Le fait que Maïmonide ne cite pas le commandement d'habiter en Eretz Israël dans les 613 commandements. S'il était nécessaire que nous ayons un commandement pour habiter chez nous, il y a un doute, est-ce que c'est chez nous? Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, réfléchissez bien à ça. Parce qu'il y a une querelle, qui est une pseudo-querelle, de la part des, disons, comment je vais les appeler, les religieux non-sionistes, qui disent, mais après tout, il n'y a pas dans le code de Maïmonide qu'il faut habiter en Eretz Israël. En réalité, c'est beaucoup plus grave. Je vais vous raconter une petite anecdote, et puis je vous la racontais d'ailleurs une fois quand ça m'est arrivé. Il y a quelques années, j'étais à Paris, j'étais invité par un cercle d'études juifs dans le Sentier. Vous voyez le quartier du Sentier? Bon, le directeur du cercle d'études est devenu d'ailleurs le président du consistoire de Paris. Mais il ne s'agissait pas de lui. Alors dans la salle, il y a une question après mon exposé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais monsieur le rabbin, est-ce que je suis sûr que je peux vivre en juif religieux en Eretz Israël? Il n'est pas là. Hein. Alors j'allais prendre un air acide pour répondre. Et je lui ai répondu comme ça m'arrive de répondre. J'ai dit, écoutez, si vous avez besoin d'un commandement pour entrer chez votre mère, c'est que peut-être c'est pas votre mère. Et la salle a compris d'ailleurs tout de suite. Et puis il y a eu, comment dire en français, j'ai oublié, Has Baulam. Un silence lourd, suivi d'ailleurs d'un remue-ménage. Il s'agissait d'un candidat à la conversion. Et il était déjà barbu, alors on ne voyait pas s'il n'était pas juif. Alors c'était très, très, très profond comme atmosphère. C'est-à-dire, effectivement, ce n'était pas sa mère. Il voulait avoir un commandement pour aller chez notre mère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'est arrangé par la suite. Il a fait ça à Lia, je ne sais pas où il est, à Mnebrak ou à Arnof, non, peu importe. Mais vous voyez, donc c'est une question importante. Mais je répondrai très rapidement. Si ce n'est pas suffisant, on reprendra ça à la fin du cours. L'intitulé Anochi Hashem Elokecha Asherotziticha Meret Mitzrayim. Je suis Hashem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et voilà ma loi. Et pourquoi je vous ai fait sortir du pays d'Égypte? Et vous avez des chapitres entiers qui expliquent pourquoi on est sorti du pays d'Égypte. C'est clair? T'as compris? Et là encore, c'est même pas implicite, comme vous avez dit, sous-entendu, c'est en clair. Et il faut s'étonner de se rendre compte que ce dont le métier et la vocation et la ferveur, c'est de lire la Torah, ne savent pas lire. Alors, ils vous font apparaître des tas de raisonnements, d'alibi d'ailleurs, pour expliquer pourquoi ils ne sont pas en Eretz Israël au nom de la Torah. Tout ça est faux. C'est tout simplement qu'ils ne savent pas lire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que si je devais dire autre chose, ça serait que, comme on dit en français, m'excusez du terme s'il n'est pas exactement à sa place, ou bien ils sont ignorants, ou bien ils sont malhonnêtes. Alors je préfère croire qu'ils sont ignorants. Vous avez compris ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a une autre question en tout cas là?
Comment ça se fait que les 10 commandements à la deuxième fois ne correspondent pas exactement aux 10 premiers commandements?
Très bien. Oui, je vous écoute, il y a une autre question. Quelle? Alors, qui est dans l'ordre? Arishon, c'est toi? Bien.
Vous avez cité Maïmonide et son code de Mitzvot.
Parle plus fort.
Vous avez cité Maïmonide et son code de Mitzvot. si j'ai bien compris, les choses qui sont tellement évidentes que ça s'adresse à nous, il n'y a pas besoin de nous le dire. Tel qu'on ne dit pas à Israël, retourne chez ta mère. Mais si c'est comme ça, pourquoi on doit dire à Israël, tu dois aimer Dieu?
C'est une évidence également. Et non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Très bien, très bonne question. Et d'ailleurs, pourquoi on dit à Israël, tu dois aimer ton prochain? Ça veut dire que ce n'est pas évident. Il faut toujours raisonner dans la foulée, coulée, je ne sais pas, de la question. Très bien. Alors, je crois qu'on va être là encore demain matin, ce n'est pas grave. Mais si j'oublie ta question, tu me la rappelleras. Mais je signale, le problème important, c'est que la Torah ne fait aucune allusion ni à la résurrection des morts, ni au monde à venir. Et nous avons une querelle énorme avec les théologiens chrétiens là-dessus, qui font comme si c'est eux qui ont inventé ça. Et alors je répondrai de la même manière que tout à l'heure. Si la Torah avait à nous dire ces choses-là, la Torah, ce n'est pas un catéchisme. Ça veut dire qu'elle ne s'adresse pas aux Hébreux. La Torah s'adresse aux Hébreux qui vont à la résurrection des morts, qui vont au monde à venir, naturellement dans leur identité hébraïque. Alors elle leur dit comment on y va, le viatique. Mais si la Torah avait d'abord à m'expliquer comment il faut être pour être hébreu, donc juif, c'est que ce n'est pas moi qu'elle parle. On raisonne comme si le peuple d'Israël qui a reçu la Torah était une page blanche sur laquelle il fallait écrire. C'est un peuple qui a une tradition, une religion qui vient des patriarches et une identité qui vient depuis le premier homme à travers les Hébreux, qui a une culture à qui la Torah s'adresse. Alors, si la Torah devait leur expliquer leur culture pour pouvoir leur parler, c'est que ce n'est pas eux qu'elle parle. Je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez pourquoi c'est important de se rendre compte que le fait que nous, juifs, descendants des Hébreux, nous ayons ces faux problèmes, enfin ces problèmes que j'explique faux, ça nous montre à quel point nous sommes coupés de notre identité réelle. Et c'est ça qui explique toutes ces fausses questions. C'est des questions très tardives, des derniers siècles. C'est des questions de la rencontre entre les rabbins et les païens. Alors les rabbins devaient expliquer aux païens les réponses à des questions de païens. Et quand c'était les juifs qui posaient ces questions de païens, c'est parce qu'il s'agissait des juifs coupés de leur identité hébraïque. Et à travers les siècles, ça s'est passé dans toutes les cultures. Quand j'ai dit païen, je n'ai pas dit idolâtre, j'ai dit païen. La religion naturelle du paganisme, à qui il faut expliquer de quoi il s'agit dans l'identité hébraïque. Alors la Torah s'adresse aux Hébreux. C'est pas pour rien qu'il a écrit comme un verset sempiternel, je ne sais pas comment dire, parle aux enfants d'Israël. Et très souvent, les rabbins posent la question, et pourquoi pas aux autres? Bon, il y a deux questions dans la même question. Et pourquoi pas aux parents? Pourquoi les enfants? Ça, j'ai une autre question. Okay. C'est un problème de mouvement de jeunesse. Mais je vais vous rappeler, parce que j'avais l'intention de le rappeler pour une toute autre question qu'on va utiliser tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez la prière de Rabbi Levi de Yitzhak Levi de Berditchev, qui connaît, qui a une culture ashkénaze traditionnelle. Hein? Non, c'est pas celle-là. Pas le Kaddish. Je sais pas si vous l'appelez le Kaddish de Rabbi Levi de Berditchev. Ah non, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Parce qu'à la fin, il y a Kadash Vizkadash et Maravan. Alors, je l'ai entendu, je vais vous dire, de qui de la première fois. La première fois que j'ai entendu, c'est d'un rabbin français qui a été une personnalité importante du judaïsme francophone à Jérusalem, qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est le Rav Paul Yachek, c'est Chrono Yibracha, je ne sais pas si on entend, qui était le fils, oui, malheureusement, qui était le fils du Rav Paul Yachek, alors je ne sais plus si c'est la préhistoire, de Saverne ou de Saverne, le Rav Paul Yachek, ou Met Brimat. Oui. Okay. Et alors, il avait une voix magnifique, il chantait ça, extraordinaire. C'était en yiddish. Alors, le thème général de ce kaddish, d'ailleurs, tu as raison, c'est le kaddish du Rav Levi de Berditchev, c'était le Rav, à la suite d'un pogrom, je crois. Le Rav s'adresse à Dieu et lui dit, mais qu'est-ce que tu as avec les enfants d'Israël? Pourquoi il n'y a que desquels tu t'occupes? Parle aux enfants d'Israël, ordonne aux enfants d'Israël, dis aux enfants d'Israël et les autres. Alors, les autres, c'est les grandes civilisations, les Babyloniens, les Romains. Alors, à la fin, le Rav dit, je sais pourquoi, parce qu'eux reconnaissent leur tsar, leur César, d'ailleurs c'est le même mot, tsar, tsarot, césar, césar, ça c'est la même chose. Et nous, nous avons, plus que ça, nous avons le pain du César, tsar pat. et, Et alors, eux reconnaissent le César comme roi, alors que nous, nous reconnaissons le roi des rois et nous disons « Ikala, l'Ikala, Shemarava ». Ça veut dire comment? Alors, c'est un peu le même sens. C'est-à-dire, il faut découvrir ça. À qui la Torah s'adresse? La Torah ne s'adresse pas à des étudiants en théologie. La Torah s'adresse à des juifs, c'est-à-dire censément des hébreux qui ont leur culture. Et toutes ces questions-là procèdent du fait qu'on a oublié. C'est pas un éditeur qui nous a donné un livre à étudier pour faire des doctorats de théologie. Je pense que c'est clair. Il y a une culture hébraïque qui est la Torah Shebaalpé. Et si c'était nécessaire de nous la mettre par écrit, encore une fois, c'est que c'est pas à nous qu'on parle. Vous avez compris le problème? Bon. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Ah, tu avais une deuxième question. Non. Une minute. Chacun mon tour. Oui, je t'écoute.
Et la deuxième question, c'est aussi sur les 10 commandements. J'ai entendu un cours du Rav Cherki, quand j'ai demandé les choses, je me suis dit que ça venait de toi. Classer les 10 commandements, d'une part, le premier commandement à part,
oui.
Et ensuite trois groupes,
oui.
Avec les...
Oui, oui, je vois. Non, quelle est la question?
C'est la répartition à l'intérieur de chaque groupe. On récupère de nouveau le commandement entre l'homme et Dieu, l'homme et son prochain.
Oui. Alors c'est une question. C'est une question dans la question. Bon, alors ça, je préfère tout à l'heure et tu me le rappelleras parce qu'il me faut au moins un quart d'heure. Hein, okay. De toute façon, si même si on n'a pas le temps, je donne la source. C'est un enseignement de Rabbi Abraham Bachia Hanassi, qu'on appelle aussi Abraham Bachia Sfaradi, qui n'est pas le Bachia. Impakuda, hein, et qui vivait il y a 11 siècles dans le sud de la France et au nord de l'Espagne, et qui a écrit un livre qui s'appelle Higayon Hanefesh. C'est un livre que vous pouvez trouver dans les librairies spécialisées de Kabbalah. Et là, il explique le schéma des 10 commandements, avec le premier commandement qui n'est pas un commandement dans le sens. Et là, il est en marloquet avec le Rambam, qui n'est pas une mitzvah dans le sens habituel du terme, mais qui est une définition. Voilà qui suis-je, et voilà ma loi, et les 9 commandements, c'est 3 groupes. Le premier groupe, des principes, des lois qui régissent l'homme et les rapports entre l'homme et Dieu, Ben Adam la Makom. Deuxième groupe de 3, Ben Adam la Havero. Non, Ben Adam le Atzmo d'abord. Le troisième groupe de 3, Ben Adam la Havero. Et alors, dans chaque groupe, un au niveau de la Mahashava, le deuxième au niveau du Dibourg, troisième au niveau du Marassi. Je n'ai pas traduit pour ne pas rentrer dans le détail, mais si on a le temps tout à l'heure. Et d'autre part, il y a effectivement cette dimension que la dominante de Kavana est dans les 3 groupes, un dans les rapports avec Dieu, 2 dans les rapports avec soi-même, 3 dans les rapports avec autrui, mais il y a un lien avec aussi les Kavanos des autres groupes. Quelques commandements que ce soit, sa dominante, c'est soit un commandement de culte, soit un commandement de morale, soit un commandement de vie spirituelle, mais il y a aussi le lien avec les autres objectifs de la Torah. C'est clair? Suffisamment, ce que je veux dire? Alors ça, c'est un thème extrêmement, extrêmement important. Nous sommes habitués à 2 groupes de commandements, 5 des rapports avec Dieu et 5 des rapports avec autrui, mais lui divise tout à fait autrement, et ce schéma est, je pense, j'ai pas étudié la preuve en détail, que c'est à la source du schéma du Maharal des 3 groupes de mitzvot dans la Torah, qui a d'ailleurs sa source dans le Zohar et dans le Talmud. Bon, je reviens à la parenthèse sur cette question. Ok.
Les 12 tribus.
Quel rapport?
Non, c'est une question qui me.
Non, c'est un rapport avec la paracha?
Oui, en fait,
Alors vas-y.
Le recensement. Oui. Dans les questions du recensement, il semble bien qu'il y a 12 tribus.
Donc, va être un an, il y a le recensement?
Non, avant, on n'était pas recensement.
Ah, d'accord, alors continue.
Qui semble structurellement être vraiment très essentiel à l'identité d'Israël. Or, il s'est passé un drame historique où 10 tribus sont parties.
9,5.
Bon,
mais continue.
Et alors, on ne sait pas s'ils reviendront, ne reviendront pas. De toute façon, ce qu'on
Comment on ne sait pas, dans tous les cas. Comment on ne sait pas. Dans tous les cas, on espère.
Oui, on espère. Nous sommes deux tribus et demi, et il semble qu'il y a une disproportion entre ce leitmotiv des 12 tribus.
Nous sommes trois tribus et demi.
Tu comptes la tribu
Lévi, Yehuda, Binyamin et une partie de Shimon.
Non, alors c'est deux tribus et demi plus la partie des Lévites qui concernait le royaume de Juda. Continue.
Donc il semblerait qu'il y ait une espèce de disproportion entre ce leitmotiv qui est constamment répété par la Torah, qui semble très essentiel, mais qui, du fait du point de vue historique existentiel, ne se monnaie pas, si on peut dire.
Très bien, vous avez compris la question? Non. Alors je l'explique. Tu me diras si c'est ça. Voilà. Lorsque la Torah parle des enfants d'Israël, il s'agit des 12 tribus qui sont 13, avec la tribu de Lévi. Or, voilà que historiquement, nous descendons du royaume de Juda, et les tribus qui formaient le royaume d'Israël du Nord sont disparues. À travers quelques siècles, ils ont fini par disparaître. Et le royaume de Juda, c'est la tribu de Juda, Benjamin, la moitié de la tribu de Menaché, et la partie des Lévites qui était dans le royaume de Juda, dans la province du royaume de Juda. Et par conséquent, les Juifs sont des descendants des Judéens. Donc la question est-ce que les Juifs représentent Israël? Ils représentent un Israël mutilé au 6e. Non, un peu moins. Et c'est exact. Il y a une distance entre l'identité juive, c'est-à-dire judéenne, et l'identité Israël globale, totale. Un des indices, c'est que la prophétie s'est arrêtée au moment de cette séparation et de la perte des tribus du Nord. C'est-à-dire, la capacité de prophétie qu'il y avait dans le royaume de Juda continuait dans une sorte de phénomène de rémanence, et puis elle s'est éteinte quand le royaume de Juda lui-même a été dispersé, est allé en exil. Mais, pour répondre à la question précise, le livre des chroniques, dans le dernier livre historique du Tanakh, nous indique qu'un certain nombre de familles de toutes les tribus sont revenues au deuxième royaume de Juda en même temps que les Judéens du premier exil. Parce que c'est un phénomène qui a pris des siècles. Alors, je vais employer en français le terme de Israélite pour parler des tribus du royaume du Nord, qui avait pour capitale Shrem, et qu'on appelle dans le Tanakh Bet Israël, le royaume d'Israël, l'autre étant le royaume de Juda, Bet Israël ou Bet Yosef ou Bet Ephraim, parce que c'est la tribu d'Ephraim, qui était la tribu principale de Joseph, qui était la tribu royale du royaume du Nord. Eh bien, il y a eu quelques siècles de contact entre les Israélites, qui étaient les exilés de ces 10 tribus, en schématisant, et les Judéens de l'exil du premier royaume de Juda. Et puis, il y a eu un certain nombre de familles des Israélites qui ont rejoint les Judéens. Par conséquent, nous sommes les Juifs, mais chez les Juifs, descendants des Judéens, il y a un résumé en trace, ne serait-ce qu'en trace, des autres tribus. C'est clair? Et il y a certaines communautés, il y a des dominantes de tribus, des 10 tribus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va nous prendre du temps, mais je schématise beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où on est en train de les redécouvrir, les descendants de ces tribus perdues. Alors, il y a deux cas différents. Il y a les Éthiopiens qui descendent de la tribu de Dan, enfin en schématisant beaucoup, de la tribu de Dan, et qui sont un cas particulier entre les 10 tribus perdues et les Juifs, à proprement parler, et puis les descendants des 10 tribus perdues qui sont devenus des Goyim. Ils sont d'origine israélite, si j'ose dire, hébraïque, et ils ont d'ailleurs des types hébreux, mais il y a des missions d'ethnologues israéliens en particulier qui les ont redécouverts. Et on a des photographies et des films, ils ont vraiment des types hébreux, et pas du tout d'autres branches de sémites, par exemple des Arabes. Mais ce sont des goïms, et s'ils reviennent, et quand ils reviennent, il faut les convertir sans problème. Mais on ne cherche pas à savoir, comment dire, s'ils sont capables d'être rabbins pour pouvoir être juifs. On les convertit tout de suite, si on sait qu'ils descendent de ces tribus. Tandis qu'encore une fois, les Éthiopiens, c'est un cas particulier entre les deux, et la Mishnah les désigne déjà. La Mishnah aussi fait allusion à ces 10 tribus, et en particulier, ceux qui sont les plus diagnosticables sont les Juifs afghans. Pas les Juifs afghans, les Afghans, qu'on appelle, que les Anglais ont appelé les Patans, les Pashtuns. Bon, si ça vous intéresse, on peut étudier un jour ça, je vous ferai venir un spécialiste. Mais par conséquent, pour répondre à ta question, il y a chez les Juifs tous les Hébreux. Mais en résumé, je ne sais pas comment dire, en trace, c'est clair. Donc nous sommes quand même potentiellement tout Israël. Je dis que potentiellement, mais potentiellement quand même. Et encore une fois, l'indice qu'il y a une grande différence, et ils avaient raison de poser la question, c'est l'arrêt de la prophétie. Il faut que Israël, des 12 tribus, soit présent pour que la prophétie se formule. Et ça ne veut pas dire que les Juifs ne sont pas capables de la capter, mais à un niveau très inférieur qu'on appelle le Ruach HaKodesh, qui est de l'ordre de la prophétie, mais dans un autre niveau. C'est clair ? Bon, c'est un sujet qui mérite d'être étudié. Et voilà pour cette question. Attendez, une minute, je vais vérifier. C'est suffisamment clair malgré la densité du sujet. Okay.
Juste une information. Dimanche prochain, vont arriver 40 birmans qui se disent la communauté arabe birmanique, qui se disent descendants de menacés.
Voilà.
Donc il y a 40 jeunes qui vont arriver dans le Mouchkatif ce dimanche prochain.
Mais déjà convertis ou candidats à la conversion ?
Je sais pas, c'est Abéfra, il va passer voir.
Ah bon, mais c'est ce que je voulais citer. Il y a une organisation qui s'appelle Ami Shav, Mon Peuple Revient, qui est dirigé par le Rav Avichaïl, qui depuis des années s'occupe de ça, et qui a ramené des Juifs perdus, enfin des Hébreux perdus de partout. Je pense que la prochaine tribu qu'on va... ne croyez pas que je m'envole, hein, c'est les Sardes. Les Sardes de Sardaigne. C'est une tribu d'Hébreux perdue là-bas. Ceux qui connaissent la civilisation italienne... Ben laissez-moi parler. Je sais bien que c'est étonnant, mais vous avez l'habitude. Ceux qui connaissent la civilisation italienne savent que les Sardes sont des Italiens très différents des autres Italiens. Et si vous voulez vous référer au texte biblique, les Sered Mishpahat Sardi. Voilà. Chaque fois que vous achetez une boîte de sardines. Bon. Ça veut dire, c'est très étonnant, mais il sortira de partout des descendants des 10 tribus perdues. C'est pas la même chose que les Juifs Maran. Hein. C'est tout à fait autre chose. Hein. Les Juifs Maran, c'est des Juifs d'origine camouflés en diaspora. Et d'ailleurs, je crois que, bon, c'est un autre sujet, mais pas tellement. Hein. Tout Juif de diaspora est plus ou moins Maran. Parce que c'était les Juifs Maran, c'était des Juifs en leur fort intérieur, mais qui fonctionnaient comme des Goyim. Alors avec toutes les analogies et les, que vous voudrez, je sais très bien que c'est choquant pour les Juifs de diaspora, mais nous avons été comme ça, nous avons été les maranes fiers d'être juifs. Schizophrénie. Mais c'est une vraie schizophrénie. Kafka, c'est le type du discours du Juif de diaspora. C'est le labyrinthe, c'est le... c'est kafkaïen, hein, quoi. C'est clair. Alors, il y avait des nuances, il y avait des degrés, mais tout juif de diaspora est en quelque sorte un juif maran. Je tiens cette phrase de Poliakov, qui est un grand historien juif contemporain, qui connaît très bien les sujets dont il parle. Et nous, qui sommes déjà israéliens, mais enfin d'origine juif de diaspora, on peut très bien comprendre ce qu'il veut dire. C'est que quand on fonctionne comme juif de diaspora, on fonctionne comme un maran. Avec des contraintes culturelles différentes du temps des Maranos étymologiques, mais ça revient au même. Enfin, ça revient au même. J'exagère, mais c'est pire. Est-ce qu'il y a une... encore une question. Attends, je crois que c'était monsieur d'abord et moi ensuite. Oui. Ken.
Le pasuk bet perek dalet, une espèce de répétition, l'autosifo la dava rachel anochim et sabé etchem.
Oui, la répétition, c'est dans Asher Anochim et Savetrem. Très bien. Alors, tu me rappelles la question s'il nous reste du temps après. Okay? Parce que je voudrais quand même qu'on parle d'un petit peu tout ça. Je ne sais pas comment on va faire. Hein? Et c'était vous.
Okay. J'ai une grosse question. Ça fait référence à ce qui a été
dit. Parlez plus fort parce que.
J'ai une grosse question.
Les en sont la cause. J'ai mangé trop de réglisse.
C'est une question qui fait référence à ce qui a été dit tout à l'heure sur le concept d'Israël et des 12 tribus.
Oui.
J'avais entendu un commentaire du Rav Aviner qui disait qu'en fait, Yaakov, qui représente Israël, c'est-à-dire les 12 tribus, a reçu deux bénédictions. Yaakov était appelé Ishkaful, l'homme double, parce qu'il a reçu deux bénédictions. La bénédiction qu'il a eue en propre de son père, de ses pères, et qui lui venait de Hachem,
est la bénédiction qu'il a prise à Esav, à savoir, d'une part, maîtriser la spiritualité, d'autre part, pouvoir dominer la matérialité dans l'humanité. Et c'est pour cela qu'il s'est marié avec deux sœurs, puisqu'il a vu que d'une sœur, Rachel, devait descendre le Machir ben Yosef, et de l'autre sœur, Léa, devait descendre le Machir ben David. Ma question est la suivante, et c'est une question qui est assez plus qu'obsédante. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé, du fait de l'exil, le concept d'Israël, du fait qu'on s'est replié sur nous-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas été...
Quand vous dites « on », c'est qui?
Les descendants du royaume du Sud.
Les Juifs.
Donc, il y a un passage notamment dans la Torah qui est quasiment inexplicable, c'est lorsque Jacob bénit Ephraïm et Ménassé, il dit en parlant d'Ephraïm, il sera le père de nombreuses nations.
Comment le verset?
Le verset, c'est lorsque Joseph apporte...
Non, non, comment le verset en hébreu?
Je ne maîtrise pas très bien la Torah, donc je ne peux pas exactement vous dire exactement ce que
c'est. Bon, attendez, on va chercher le verset, parce qu'il faut voir comment il est écrit. Et alors, quelle est la question?
Alors, la question est la suivante. Est-ce que la Torah peut se tromper? Ou alors, pour la formuler d'une manière peut-être un peu différente, est-ce que rétroactivement, est-ce qu'on peut dire que l'Éphraïm est constitué par l'Occident?
Non, ce serait une hypothèse. Je vais vous dire, si c'est l'essentiel de votre question déjà, je vais essayer de répondre assez rapidement. Vous avez touché à différents niveaux de définition. Alors je vais résumer sur le foyer de la question. Les descendants de Léa et les descendants de Rachel, alors je laisse de côté la question de la filiation messianique, parce qu'il faudrait expliquer trop longtemps, elle est exacte d'ailleurs, il faudrait expliquer trop longtemps, ça préfigure les Juifs, et je dis bien les Juifs pour les deux, les Juifs d'Eretz Israël et les Juifs de diaspora. La vocation des descendants de Rachel, c'est la diaspora. La vocation des descendants de Léa, c'est Eretz Israël. L'identité essentielle des descendants de Rachel, c'est Joseph. L'identité essentielle des descendants de Léa, c'est Yehuda. Yehuda, c'est le fils de Jacob devenu Israël. Yosef, c'est le fils de Jacob, pas encore devenu Israël. Elle est Todot Yaakov Yosef. Et alors, quand vous avez dit tout à l'heure, j'ai noté cela, je voudrais d'abord corriger un mot. Vous avez dit deux bénédictions, une qui vient de ses ascendants, de ses ancêtres. Non, je vous écoutais à vous, pas au Rav Aviner. Je vous parle à vous. Ah, désolé. Et vous permettez, c'est ce que j'entends de vous à qui je réponds. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah, ça va. Non, je vais vous dire pourquoi. Je connais bien le Rav Aviner, je l'ai sûrement connu avant vous. Je réponds aux paroles que j'ai entendues de vous. Ne me dites pas que je réponds au Rav Aviner. Ceci dit, non, c'est très important ce que je vous dis là. Ceci dit, il y a un mot que je veux corriger. Alors, je reprends l'explication. Vous avez dit une bénédiction qu'il tenait de ses ancêtres. Et une qu'il a prise à Esaü. Alors reprenez bien le texte, c'est ce mot de prise qui n'est pas exact. Une bénédiction qui devait aller à Esaü, qui lui a été donnée, il n'a rien pris. Et d'ailleurs même il l'a refusé. Si vous voulez prendre le texte, on ne faisait que ça.
Oui, la bénédiction a été ratifiée.
Je corrige un mot, le mot de prise, c'est tout. Qui est mal employé, l'idée est exacte, mais faites attention. Parce que ça induit des faux problèmes.
Il y a quand même trompé ça, c'est dit en hébreu. Mais d'après le.
Ah, écoutez, vous ajoutez Tlaï Al-Gabetlaï. Déjà, un, ça suffit. Trois, c'est trop. Faites attention à la manière dont vous dites les choses que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire Jacob a trompé ça? Vous voulez comprendre le père? Et alors, vous êtes plus fort que Rachid? Non, moi non plus. Et alors, méfiez-vous de ça. Je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, j'ai un peu parlé de ce problème de méthode. C'est très difficile de parler en français des choses hébraïques, surtout quand c'est approximatif. Alors, il y a un mot qu'il fallait que je corrige, c'est le mot de prise. Parce que nous avons des conflits théologiques énormes, ne serait-ce qu'avec la chrétienté, et pas seulement avec la chrétienté, à cause de ces erreurs de lecture. Enfin, j'en suis. Et je ne crois pas que c'est ce que pensait le Rav Aviner, mais je ne l'ai pas entendu parler dans votre citation. Je ne dis pas encore une fois que ce que vous dites est faux, mais je corrige des mots que j'ai pas fini. Alors, d'autant plus que les ancêtres de Jacob, c'est les ancêtres d'Ésaü. Réfléchissez bien ça. Alors, il s'agit, et là, c'est exact ce que vous avez dit sous une autre forme, de la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction spirituelle, et dont Ésaü a été disqualifié parce qu'il a pris les filles de Canaan, et ça, dans tous les cas, était réservé à Jacob, et de la bénédiction des biens matériels qui devait aller à Ésaü, et que Rivka a donné, a obligé Jacob de prendre. Mais relisez bien le texte, on n'est pas prise et trompée. Et ceci dit, la Chalouka, elle est très exactement entre la vocation de diaspora et la vocation d'Eretz Israël. Alors, la vocation de diaspora, c'est la vocation de la matrice Rachel, la vocation d'Eretz Israël, c'est la vocation de la matrice Léa. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Et par conséquent, les Juifs qui étaient d'Eretz Israël, descendus en diaspora, là, je reprends le début de votre question, effectivement, ont oublié, risqué d'oublier leur lien de Juifs d'Eretz Israël. Ils ont fonctionné comme s'ils étaient d'Ephraïm ou d'ailleurs. C'est ce que vous vouliez dire. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. C'était clair ? Ceci dit, encore une fois, Ephraïm, ce n'est pas tellement les Juifs de diaspora. Ephraïm, c'est cette identité hébraïque perdue chez les nations et qui travaille chez eux clandestinement. Et ça y est, c'est clair ?
Ouais.
Y a-t-il une autre question, je crois, par là, quelqu'un ? À vous.
Oui, je voulais savoir la relation exacte dans ce parachat d'aujourd'hui, ce parachat, entre les 10 commandements et le chemin.
Non, très bien. Ça, c'était la question que j'attendais, je vous dis. Je ne sais pas si je vais arriver avec tout ça, parce que quand même, je vous ai fait tirer un texte du Midrash que je voudrais qu'on étudie d'abord, et après, on verra au choix. Alors, ça c'est un sujet très important. Peut-être que quelqu'un me rappellera l'année prochaine qu'on étudie que ça. En quoi le premier verset du Kriyat Shema, qui est le verset clé du Kriyat Shema, et le premier verset des 10 commandements, c'est le même. En quoi ? C'est pas apparent, c'est pas évident. Mais en quoi c'est la même chose ? Alors écoutez, on va lire les premiers versets et puis on étudiera le texte que je vous ai... En tout cas, c'est très bien. Je crois que c'est comme ça qu'il faut étudier que j'essaye de répondre à vos questions, si je peux, plutôt qu'aux miennes. Alors là, maintenant, on va étudier une question que je me pose, moi. Enfin, que je me pose. Que le texte nous pose, nous impose. Voilà, le contexte d'abord du sujet. C'est dans le discours de Moïse, à la fin de sa vie, dans une des péripéties de la manière dont il rappelle les événements qui les ont amenés jusqu'au bord du Jourdain, du côté de la Jordanie, en deçà du Jourdain. Alors, il raconte dans quelle péripétie il est intervenu pour demander à Dieu de sursoir à la décision qui le frappait, lui et à Aaron. La décision avait déjà frappé à Aaron qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. Alors, c'est un sujet en soi. Pourquoi Moïse ne devait pas rentrer en Eretz Israël ? Mais surtout, du point de vue exégétique, à proprement parler, on étudie, à propos de notre texte, pourquoi Moïse, cependant, a pensé qu'il était possible d'intervenir par la prière, et quel type de prière, pour demander à Dieu de sursoir à cette décision. Alors ça, je vous rappelle très brièvement ce que nous avons étudié il y a quelques cours, à propos d'un autre sujet, je ne me rappelle pas comment était le lien, mais ce thème, pourquoi Moïse n'est pas entré en Eretz Israël, c'est un mystère. Mais c'est un mystère qui fait partie d'un mystère encore plus grand. Je vais vous étonner, mais la question que pose le Talmud et le Midrash à ce sujet, c'est pourquoi Moïse Bichlal est mort. Et là, il est mort de manière non habituelle. Je ne dirais pas non naturelle, aucune mort n'est naturelle. Mais c'est simplement l'habitude qui nous fait croire que c'est naturel de mourir. Mais c'est encore un autre sujet. Mais il est mort de manière non habituelle. On dirait même que, est-ce qu'on a le droit de dire qu'il est mort ? C'est un autre terme qu'il faudrait employer. Il a quitté ce monde. Mais la Gemara pose la question à propos d'un principe que je vous ai cité à l'époque. C'est en mita velo chet velo ven isurin velo avon. Je crois que c'est beli chet ou belo chet. Bon, le mot a le même sens. Il n'y a pas de mort s'il n'y a pas eu de faute. C'est un problème théologique en soi. Vous voyez que ça éclaire le fait que, effectivement, la mort n'est pas considérée comme naturelle par la Torah. C'est un scandale. Il y a une cause. Alors, ce que la théologie chrétienne a fait, que de cela est tellement pesant et tellement lourd, qu'en général, on ne s'occupe pas de ce problème, parce que c'est trop compliqué d'expliquer en quoi c'est différent dans la tradition juive. Je vous dis très, très brièvement comment les chrétiens pensent le problème. Apparemment, d'ailleurs, sur le pchat apparent du récit de la première faute, qu'ils appellent le péché originel, que personne ne comprend, qu'est-ce que ça veut dire, que parce que Adam Arishon a mangé une pomme, d'ailleurs c'est pas écrit que c'était une pomme, la mort est rentrée dans le monde. Et qui va comprendre ces choses-là, hein? C'est une fois j'ai lu une blague, mais je dis ça souvent de blague pour détendre l'atmosphère, parce que c'est énorme. D'un côté, un geste incompréhensible, une pomme, et de l'autre côté, tous les malheurs du monde. Dans la tête de qui ça peut rentrer? C'est pas une religion normale qui raconte des histoires pareilles. C'est clair. D'ailleurs, regardez l'humour de la tradition juive, les Achais, le Rosh Hashanah, qui commémore l'événement, les Juifs, pieusement, prennent une pomme avec du miel. Vous avez remarqué ça? Bon, alors je reviens au sujet. Alors, pour la théologie chrétienne, vraiment en trois phrases, la mort a pour cause le péché, et le péché a pour cause la loi. C'est la loi qui fait que le péché est le péché, et c'est le péché qui entraîne la mort. Et par conséquent, il faut être sauvé. De quoi vous croyez? De la mort? Non, de la loi. Je ne sais pas si c'est clair. Bien. Alors, ça, c'est la théologie chrétienne. Je vous le signale en passant pour vous dire à quel point on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Mais, pourquoi je vous ai parlé de... Ah oui, oui. Quoi qu'il en soit, le thème général, c'est que la mort, il faut expliquer. Et alors la Gemara dit tranquillement, il n'y a pas de mort s'il n'y a pas eu de faute. Seulement, on ne comprend pas que c'est cette faute du premier homme qui a engagé l'identité pécheresse de toute l'humanité. Et pour la tradition juive, les hommes ne naissent pas pécheurs, ils naissent peccables. La différence, c'est que pécheur, c'est une hérédité innée de damnation donnée à la faute. On a fauté avant même de naître, on a fauté dans notre être. Je crois d'ailleurs qu'il y a derrière un thème extrêmement important à étudier, mais on n'a pas le temps maintenant, le chrétien considère que c'est une faute de vivre. C'est vivre qui est un péché. Ils ne vous le diront pas, mais ça s'entend dans tout leur discours, surtout chez les protestants. Et donc c'est une toute autre mentalité. Je laisse ça de côté. Et alors, à propos de Moïse, on se pose la question, pourquoi Moïse est mort, puisqu'il n'y a de mort que s'il y a une faute? Et Moïse n'a fait aucune faute. Or, apparemment, la Torah raconte que Moïse a fait une faute et que c'est la raison pour laquelle il n'est pas entraîné en Israël. Et vous voyez, ça s'entremêle. Le fait qu'il soit mort...